bonne année, je suis heureuse de vous retrouver pour de nouvelles interviews, pour de nouveaux podcasts. Moodstep fête ce mois-ci, c'est 9 ans. 9 ans de rencontres, 9 ans de curiosité, d'apprentissage avec vous pour une heure ou des heures et des heures et des heures si vous avez écouté des vidéos sur YouTube ou des podcasts ici même sur iTunes, SoundCloud ou directement sur le blog moodstep.com. On repart, on embarque tout de suite à la rencontre de Gérard Vaillant qui va nous parler de l'action type. Pour ceux qui ont écouté le podcast de Frédéric Dufaux-Joël, c'est lui qui nous avait parlé de cette technique lors de son interview. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur, un jeu qui justement s'intéresse à nos modes de fonctionnement, et là, l'action type, je sens, va me donner de nouvelles pistes. Allons-y, retrouvons tout de suite Gérard. Bonjour Gérard.
Bonjour Johanna.
Bienvenue sur ce podcast, nous allons parler d'action type, je suis surexcitée.
Voilà. Ben, content de te faire découvrir cette approche-là qui effectivement est souvent un petit peu surprenante.
Alors je ne la connaissais pas du tout et pourtant j'ai pas mal navigué, donc voilà, j'ai hâte de découvrir et d'essayer de comprendre. Avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Oui, merci. Donc, du tout coup, content de faire cette interview avec toi. Je suis Gérard Vaillant, je suis en Bretagne, à côté de Rennes. J'ai plusieurs activités qui cohabitent. Je suis prof de PS dans une école d'ingénieurs à l'INSA de Rennes, où je fais des cours d'éducation physique pour préparer des futurs managers, des futurs ingénieurs. J'enseigne également le management et des activités différentes un petit peu de l'enseignement du sport dans un gymnase, donc j'ai varié les enseignements. Et à côté, depuis une petite dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, je me suis spécialisé dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau, hein, qui est un des publics. Il y a 83 sportifs de haut niveau, hein, qui aménagent leur cursus à l'INSA de Rennes pour réussir le sport et les études. Et donc, j'accompagne ces jeunes à réussir leur double projet. Et pour mieux les accompagner, je me suis formé sur Action Type, dont on va parler, mais également sur d'autres outils, sur le coaching en entreprise, ce qui fait qu'aujourd'hui cohabitent plusieurs activités dans mon emploi du temps. Un emploi du temps de prof de PS, un emploi du temps administratif de gestion de ces sportifs de haut niveau, mais également un accompagnement de sportifs de haut niveau, tous sports confondus, et de manager ou chef d'entreprise à travers une activité de coach pro pour laquelle je fais partie de la Fédération Internationale Coaching Fédération.
Un vrai slasher.
Voilà.
J'ai fait une interview sur les slashers et là j'en ai un bel exemple. Juste un mot là-dessus, justement, qu'est-ce qui t'a amené à avoir différentes activités, à diversifier, que ça s'est fait en tâtonnant, comment tu t'organises dans tout ça ?
Alors, l'organisation, enfin, historiquement déjà, comment ça s'est fait ? Ça s'est fait parce que je voulais être pro dans ma façon d'accompagner des pépites, des sportifs de haut niveau qui veulent être en même temps ingénieurs et sportifs de haut niveau. Et certains ayant un niveau championnat du monde, un niveau Jeux Olympiques, en fait, pour pouvoir les accompagner en étant pro et en me sentant bien dans ma peau, en n'ayant pas peur de mal les conseiller ou mal les accompagner, j'ai estimé qu'il était nécessaire de me former, d'apprendre des choses qui soient des choses au-delà de l'attention que je pouvais avoir en tant que prof de PS avec toute ma bonne volonté. Donc j'ai acquis en fait un certain nombre de compétences, j'ai acquis un certain nombre de certifications qui font et qui me permettent en fait d'avoir confiance dans ma façon de travailler, d'accompagner ces sportifs ou ces chefs d'entreprise ou managers d'entreprise pour faire bien les choses.
Mais prof de PS, donc t'accompagnes voilà des gens qui font du sport dans leurs études.
Voilà.
Comment
oui.
T'en es venu à accompagner des sportifs de haut niveau ?
Et en fait, lorsque j'ai créé la section sportive à l'INSA, ça date de 1994, on a commencé à proposer un aménagement de cursus d'études pour les gens qui sont sportifs de haut niveau, hein, qui sont référencés par la Jeunesse et Sport en tant qu'élite sportive. Hein, et comme il était difficile de suivre des études d'ingénieur avec le niveau d'exigence qu'il est proposé et de répondre aux demandes des entraîneurs comme quoi il faut s'entraîner beaucoup, s'entraîner une à deux fois par jour, ben en fait, il a été nécessaire d'allonger la durée de scolarité et d'accompagner ces sportifs. Et puis j'ai eu, il y a quelques années, une pépite, Armelle Leclèche, qui a gagné le Vendée Globe l'année dernière, à peu près à la même époque, il y a un an. Et ce jeune qui était talentueux à l'époque quand il était étudiant à l'INSA en 1999, est venu me questionner sur ben, je voudrais être skipper pro. Et lorsqu'on a travaillé à chercher une solution lui permettant d'être skipper pro, ben on a trouvé une solution avec un stand-by d'études. Et puis il a été question également de vendre son projet professionnel de voile à ses parents qui souhaitaient qu'il soit ingénieur, ce qui est légitime, hein, comme il en avait largement le niveau. Et donc lorsque j'ai fini cet accompagnement-là, je me suis beaucoup questionné sur ma façon d'accompagner le projet d'Armel pour vérifier que ce soit bien son projet, que ce soit pas une envie de Gérard d'avoir poussé quelqu'un éventuellement dans une zone où il aurait pu être en situation de risque, en difficulté personnelle. La suite des opérations a donné raison au choix d'Armel, mais il fallait bien que ce soit le choix d'Armel et absolument pas le choix de Gérard Vaillant.
Alors si on aborde l'action type, comment tu l'as découvert? Et puis après, j'aimerais savoir comment ça s'articule dans le reste et en quoi c'est important, qu'est-ce que ça apporte de différent par rapport à tout ce que tu as étudié ou utilisé pour guider tes sportifs.
Alors, comment c'est arrivé dans ma vie? J'ai connu les créateurs d'Action Type il y a très longtemps, dans les années 85, au moment où j'étais entraîneur de volley. Mais j'avais pas accroché avec les personnes à l'époque. Et j'ai retrouvé un petit peu plus tard, dans les années 95, Ralph Hippolyte et Bertrand Terolas, qui sont les deux créateurs de cette approche Action Type, et qui m'ont bluffé par la mise en évidence de différences que je ne connaissais pas. Je connaissais être droitier ou être gaucher, hein, qui est une des préférences de motricité, de fonctionnement de la personne. J'ai été surpris de me rendre compte que, avec toute l'expertise que j'avais construite dans le volleyball en tant que ancien joueur pro, mais également en tant que coach d'équipe professionnelle en volleyball, j'avais été en capacité de demander à des joueurs de faire le contraire de ce qu'ils préféraient. Un exemple, c'est quelqu'un qui frappe le ballon, qui se matche avec la main droite, est souvent droitier. Et sur un autre axe qui est moins visible, je demandais à des joueurs que j'accompagnais, que je coachais sur le terrain de volley, à se matcher de leur mauvaise main sur d'autres préférences qui ont été mises en évidence justement par ces deux créateurs de l'approche Action Type. Donc j'étais un peu bluffé, j'étais un peu surpris. Je me suis rendu compte que quand j'enseignais ou que, quand j'accompagnais, quand je coachais les joueurs de volley, finalement, je leur donnais des conseils qui n'étaient pas pertinents pour eux, qui étaient la plupart du temps pertinents pour moi, mais uniquement et pour les gens qui avaient les mêmes préférences que moi. Donc du coup, j'ai été un petit peu mis en difficulté par cette approche. Et puis, comme toujours, quand je suis mis en difficulté, moi, j'ai un réflexe qui est de me questionner, d'aller me former, d'aller investir du temps sur cette approche, donc que j'ai découvert un petit peu plus en amont en 97, puis sur lequel je me suis formé sur les années 97, 98, 99, hein, pour maintenant être certifié avec cette approche Action Type, donc avoir le droit de faire des profils de motricité, mais également la possibilité de travailler avec toutes les facettes de cette façon de travailler qui intègre des aspects de spécificité, de motricité. Donc tous ceux qui ont une motricité qui intervient dans leur métier peuvent avoir un bénéfice à utiliser Action Type. Donc ça veut dire les sportifs, mais pas que les sportifs. Hein, toi qui es de l'autre côté du micro là pour cette interview, tu utilises ta motricité lorsque tu poses une question, lorsque tu bouges. Et donc cette motricité, elle se questionne avec ces solutions d'Action Type. Et cette méthode Action Type intègre la motricité, mais également des préférences cérébrales et également des préférences psychologiques. Et donc du coup, c'est un outil d'accompagnement, un outil de coaching, comme il en existe beaucoup d'autres, mais qui a une spécificité qui est d'intégrer tous ces aspects de la personne, qui intègre les aspects de stress, qui intègre également les aspects de motivation, de fonctionnement de la personne, hein, dans différents environnements. et qui permet même d'aller au-delà avec des aspects de neuroharmonisation dont on aura peut-être l'occasion de parler, qui est le prolongement d'Action Type, qui amène en fait la possibilité de mettre son cerveau au service de ce que l'on a besoin de faire et dans un mode qui est écologique, qui est efficace. Alors que de temps en temps, on se rend compte que on est amené par le travail ou par la nécessité à faire des choses qui nous amènent des fois à être en difficulté.
Ok, donc tu parles de spécificité de motricité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a
Alors, qu'est-ce
différents
que ça
types
veut
de
dire? Il y a différents
motricité?
types de motricité. Oui, il y
Tu as
a
des
plusieurs
exemples?
tests, voilà, plusieurs tests qui mettent en évidence des exemples. Tout à l'heure, je te faisais écho de la mise en échec que j'ai pu connaître lorsque j'ai découvert cette approche Action Type. Et donc, cette approche Action Type, sur un de ces axes, met en évidence que chacun d'entre nous marche soit par le bas du corps, soit par le haut du corps. Et il y a Coluche qui disait en blaguant il y a longtemps déjà, mais que pour marcher, c'était simple, il suffisait de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Et au-delà de la boutade, il y a une mise en évidence à travers les chaînistes, les gens qui étudient les chaînes motrices. Hein, bah, comment ces chaînistes ont mis en évidence qu'il y avait deux façons de marcher et que ces façons de marcher, en fait, adressaient un équilibre de la personne différent. Et donc, cet équilibre différent amène les gens à avoir une préférence pour un centre de gravité un petit peu avant l'axe de corps, un peu vers l'avant des pieds, ou une préférence pour un poids du corps qui va être plus stable, un petit peu à l'arrière des pieds, un peu plus sur les talons. Et
C'est
chacun.
drôle parce que j'entends mon premier job, je travaillais dans une PME dans le centre de la France, et le directeur de mon entreprise m'a dit, mais vous marchez, mais vous êtes en avant. Donc en fait, comment tu vois quelle spécificité de motricité tu as?
Alors en fait, on peut le voir, comme tu viens de le dire, ça peut se voir, ton chef à l'époque avait vu de toi une façon de te comporter lorsque tu marchais. On peut aller au-delà en mettant un test physique qui utilise une interaction avec le testeur, qui est hein, les personnes qui sont certifiées Action Type sont habilitées, sont formées au testing, et le test permet de vérifier que l'observable, ce qui a été vu, est effectivement la préférence de la personne, qui met en jeu une zone cérébrale préférentielle et qui va adopter un comportement psychologique éventuellement différent.
Est-ce que tu
Et là,
peux nous permettre de visualiser en quoi ça consiste ces tests?
alors, les tests, en fait, si j'étais à côté de toi dans la pièce et si tu étais debout à côté de moi, il conviendrait pour moi de mettre la main entre ton épaule et ton coude pour mettre une interaction sur ton corps, sur le côté, un appui. Je te demanderais à ce moment-là de venir créer une poussée contre moi et on vérifierait la tonicité, la réponse que tu es capable d'apporter à des ajustements de contraction musculaire. Et on mettrait en évidence une différence. Donc l'hypothèse que tu viens de me proposer, c'est que tu serais sans doute beaucoup, beaucoup plus tonique avec le poids du corps un peu à l'avant des pieds, ce qui ferait de toi quelqu'un qui marche par le haut du corps, alors que quelqu'un comme moi qui marche par le bas du corps serait beaucoup plus solide avec le poids du corps un tout petit peu à l'arrière. Et donc ça met en évidence quelque chose comme ça. Une deuxième façon de mettre en évidence ces choses-là, c'est les gens qui marchent par le bas du corps. Sont souvent des gens qui ont beaucoup de courbures cervicales et lombaires. Et donc, il suffit de leur demander d'accentuer ces courbures, par exemple en regardant, en montant la tête pour regarder le plafond, pour avoir tout de suite une tonicité qui s'accroît, alors que des gens comme toi, Johanna, auraient une préférence peut-être en rentrant le menton, en regardant un petit peu plus bas, un peu vers le sol, et à ce moment-là vont avoir une tonicité qui s'augmente.
J'ai envie d'aller au bout des trois pour comprendre aussi. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une préférence cérébrale?
Alors en fait justement c'est une préférence d'une zone cérébrale. Hein, de temps en temps pas mal d'auditeurs ont sans doute entendu parler des gens qui sont cerveau droit et des gens qui sont cerveau gauche. Hein, la marche par le haut du corps affecte une zone qui va être à l'avant à droite du cerveau, qui est une zone qu'on va appeler une zone plutôt intuitive, c'est-à-dire qu'elle dresse un portrait un petit peu psychologique d'une personne qui sera testée comme ça avec cette préférence pour quelque chose qui va être de l'ordre d'une projection vers le futur, d'une anticipation, d'une imagination, hein, et va privilégier des des choses qui sont de l'ordre de faire attention à son intuition, qui est une synthèse, une globalisation de ces différentes façons de prendre de l'information. Et les gens qui utilisent la marche par le bas du corps vont être plus dans une zone qui va être une zone à gauche du cerveau, plutôt vers l'arrière de la tête, hein, on appelle ça la zone basale, et qui va en fait privilégier un contact dans l'ici-maintenant. Mes sens en premier, et donc en même temps que je parle, je suis en train de toucher la table sur laquelle je suis installé, à côté de laquelle je suis installé, et c'est le toucher qui est dans l'instant présent, un peu comme on peut le connaître dans les attentions de méditation, hein, de pleine conscience et d'une attention particulière à l'ici maintenant. Et
Et
donc,
vous avez identifié combien de préférences cérébrales?
alors, il y a 16 préférences différentes. Alors, cérébrales et motrices, par contre, elles se localisent au niveau du cerveau sur 8 zones un petit peu différentes. Des zones qui sont plutôt centrales, qui ont trait également avec une autre facette de la motricité, qui est une motricité qui privilégie une chaîne antéro-latérale, qu'on va corréler plutôt avec quelque chose qui, au niveau psychologique, s'appellerait l'introversion, et quelque chose qui va être plutôt vers l'extérieur du cerveau, et qui va s'adresser plutôt à une chaîne postéro-latérale au niveau de la motricité, et qui adresserait plutôt des gens dans une quête d'énergie à l'extérieur d'eux-mêmes, et qui serait plus corrélée à de l'extraversion.
Et est-ce qu'une spécificité de motricité correspond forcément à une préférence cérébrale ou bien c'est une combinaison et chacun a des combinaisons différentes?
Alors, chacun a plutôt une spécificité très très précise, mais par contre, lorsque l'on passe sur un aspect motricité, on va avoir un résultat très très précis. Cet aspect de motricité va également se dégrader avec le stress ou la fatigue. C'est-à-dire que si on mettait comme hypothèse que tu marches par le haut du corps, donc que tu es plutôt intuitive, tu vas être intuitive quand tu es dans ton fonctionnement dit normal, quand les choses se passent bien, que l'enregistrement marche bien, que tu n'es pas fatigué. Par contre, dès qu'il va y avoir un stress, ou dès que tu vas arriver en zone de fatigue, si tu fais de la marche à pied ou de la course à pied, dès que tu vas courir un peu plus longtemps que d'habitude, tu vas changer de motricité pour adopter une marche par le bas du corps, qui permet en fait finalement à ton organisme d'aller chercher des réservoirs auxiliaires pour pouvoir
Donc,
fournir
ça veut
les...
dire que, par exemple, on a une spécificité de motricité, on peut passer dans une autre. Si on a conscience de ça, est-ce qu'on peut utiliser les différentes motricités?
Oui, mais ça marche même sans en avoir conscience. C'est-à-dire que tu ne connaissais pas Action Type avant de faire des activités qui t'amènent éventuellement en stress ou en fatigue. Et
Mais
ton
tu pourrais
corps,
le faire en conscience.
voilà, ton corps sait très bien le faire sans que tu en sois conscience, en conscience. Mais par contre, l'avantage de faire des tests et de travailler sur ces sujets-là te permettent d'en être conscient, de voir que tu vas chercher un réservoir auxiliaire, et plutôt que de te battre pour ne résister, ne pas vouloir accepter que les choses changent, ben, tu peux le faire en lâcher prise, hein, ce qui consomme beaucoup moins d'énergie et qui te permet d'être plus efficace en zone de stress.
Je voudrais finir avec le dernier. Donc les préférences psychologiques, qu'est-ce que tu entends par là?
Alors en fait, il est fait d'un parallèle entre les profils de motricité qui sont déterminés par le fonctionnement d'Action Type suite au test. Hein, on a 16 profils psychologiques ou moteurs plutôt, pardon, qui sont différents. Et un parallèle est fait entre ce mode de fonctionnement et le fonctionnement psychologique de chacun d'entre nous. Et donc il y a 16 modes psychologiques différents qui en fait s'appuient sur les travaux de Jung, mais qui ressemble également à des choses qui sont proposées, qui s'adressent, qui s'appuient sur les travaux de Jung, comme le Myers-Briggs typologie, ou comment, les méthodes des couleurs, ou les méthodes qui sont proposées. Il y a énormément d'outils qui sont proposés sur le marché de l'accompagnement, de la formation professionnelle, qui s'inspirent des travaux de Jung. Et donc il y a un parallèle qui est proposé entre des éléments de motricité, des préférences cérébrales et le fonctionnement psychologique de chacun d'entre nous.
Parce que c'est un sujet qui me passionne et que j'utilise d'ailleurs dans mon activité, dans ma profession. En fait, tu passes par le corps pour déterminer nos modes opératoires, en fait.
Voilà, et
Si
nos
je...
modes opératoires autant physiques que psychologiques. Et là où il est aussi intéressant de voir et de travailler, c'est des fois il y a un décalage entre la réponse que donne le corps, alors que Annie Cordy, qui a travaillé sur l'expression du corps, a tendance à parler de le corps ne ment pas. Et donc il suffit de bouger le corps pour faire fonctionner nos hormones sur un autre registre et se doter de la possibilité d'avoir une puissance accrue. Et donc du coup, il y a une différence des fois entre ce que dit le corps et ce que répond la personne.
Quand on reprend ton exemple du départ du volet,
Oui.
d'être droitier et puis en fin de compte d'essayer la main gauche, qu'en soit dans une certaine motricité, c'est parce qu'on est rentré dans un moule parce que justement on est tombé sur ce que tu disais tout à l'heure, quelqu'un qui nous a fait fonctionner comme lui il fonctionne plutôt que comme nous on fonctionne?
Alors souvent c'est le cas, puisqu'en fait, beaucoup des entraîneurs et des coachs de sportifs ont tendance à s'appuyer sur des techniques et à enseigner des techniques. Et donc quand on fait du sport de haut niveau, souvent, il y a des modèles techniques qui sont assez prégnants et assez précis, qui sont des fois enfermants et qui mettent en évidence qu'ils correspondent à certains sportifs et qu'ils ne correspondent pas à d'autres. Et donc on peut avoir été amené à développer un savoir-faire, un savoir-agir. En suivant le coach, en étant docile, hein. Par contre, c'est quelque chose qui ne permettra pas, à mon sens, d'atteindre le top niveau. Parce que le top niveau suppose une certaine écologie de la personne, une efficacité qui impose le fait d'utiliser ses préférences pour pouvoir réussir. Et là, il peut y avoir un différentiel important entre des choses que j'ai acquises sur le terrain pour faire comme le coach m'a dit de faire. Et on se rend compte que la plupart des coachs, mais c'est également vrai pour les managers ou chefs d'entreprise, la plupart d'entre nous coachons comme nous sommes, plutôt que permettant à la personne de découvrir ses préférences, l'usage de ses préférences, pour acquérir l'utilisation de ses préférences dans la performance de haut niveau, qu'elle soit sportive ou qu'elle soit en entreprise. Et donc,
Ce qui est génial, c'est que on va venir au management juste après pour conclure, mais donc on reste sur le sport. Tu fais découvrir à ton joueur de volley-ball, voilà, que peut-être il jouait de la main droite et qu'avec la main gauche, il peut faire des choses qui correspondent à
oui.
ses spécificités de motricité. De ton expérience, comment on se réapproprie? Est-ce que ça met du temps? Est-ce que c'est justement inscrit dans notre corps ou
Non.
Comment on retrouve le chemin de ce qui était naturel pour nous?
Alors en fait, ça a souvent un effet waouh, c'est-à-dire que c'est sclérosant, enfermant, et on ressent un malaise à devoir utiliser une préférence qui n'est pas la nôtre. Et donc évidemment, il n'y a aucun volleyeur qui se matche de la mauvaise main parce que il a bien évidemment utilisé cette préférence-là, qui est une préférence tellement connue. Mais pour revenir sur le est-ce que je marche par le bas ou je marche par le haut, il y a une différence pour le volleyeur qui consiste en fait à être très très fléchi sur ses jambes pour quelqu'un qui marche par le bas du corps et plutôt grand, plutôt avec des jambes presque tendues pour quelqu'un qui marche par le haut du corps. Et donc du coup, il y a, lorsqu'on propose à la personne de faire autrement, l'équivalent d'une libération. Enfin, on m'enlève quelque chose qui me maintenait prisonnier dans une motricité qui ne me permettait pas mon expression. Éventuellement, je pourrais te prendre un exemple d'un coach qui, il y a quelques années en tennis, est venu me voir en disant « Gérard, est-ce que tu pourrais m'aider? Il y a une joueuse qui ne fait pas ce que je veux, c'est-à-dire elle ne réussit pas. » En fait, à fléchir les jambes pour être en capacité de défendre une amortie quand elle est surprise par l'adversaire. Et ce coach voulait à tout prix que la jeune fille en question fléchisse les jambes pour pouvoir pousser sur ses jambes et aller chercher une amortie. Et je lui ai dit, ben, si ça marche pas, peut-être fais autrement. Et une hypothèse, c'est que cette jeune fille marche peut-être et sans doute par le haut du corps. Demande-lui de tendre les jambes et d'avoir juste un petit sursaut, lui permettant de rebondir sur ses pointes de pied et regarde si elle est capable de défendre l'amorti que tu lui proposes. Et immédiatement, dès que la joueuse a été en fait finalement libre d'utiliser sa préférence dans la tâche qui était proposée par l'entraîneur, elle a tout de suite défendu l'amorti, elle a défendu les autres amortis, elle a révélé son potentiel en étant capable de jouer très très bien, mais à condition d'utiliser sa préférence de motricité.
T'as aussi parlé de neuro-hormonisation et tu en as parlé comme d'une phase qu'il y avait après. Qu'est-ce que c'est?
Alors, la neuroharmonisation, c'est quelque chose de très très puissant. Je pourrais te prendre un exemple pour te montrer la puissance de ce que c'est avec un joueur qui, en handball, était blessé. Il s'est fait une entorse du genou, des croisés. Et lorsque je l'ai testé, il avait, comme moi, une marche par le bas du corps. Et lorsque je lui ai demandé de penser au moment de sa blessure, après son opération, son genou était réparé, il était à nouveau dans les buts, dans une équipe de hand de très haut niveau. Lorsque je lui ai fait les tests, après lui demander de se remémorer le moment de sa blessure, sa motricité switchait et s'inversait, mettant en évidence que quelque part dans sa mémoire, même si le genou physiquement était réparé par l'opération, dans sa mémoire, il restait un traumatisme. Il restait une information stockée en mémoire de façon dysfonctionnelle. Et le travail de neuroharmonisation consiste en fait finalement à, par un déplacement des yeux, hein, ou par un déplacement, un tapotement sur certaines zones du corps, de libérer l'esprit de cette mémoire traumatique. Et en quelques minutes, il est possible de nettoyer un petit peu le terrain d'une information qui dans le cerveau circule un petit peu moins bien pour redonner tout le potentiel à ce joueur qui va retraiter l'information. Hein, avec le déplacement de ses yeux ou le tapotement, et va retrouver le plein potentiel de son activité. En fait, on pourrait lui dire qu'il guérit de la mémoire stockée, hein, de cet événement traumatique.
D'accord. Maintenant, j'aimerais voir comment tu l'appliques au management.
Alors,
C'est-à-dire que là, on
ouais.
parle du corps. Et c'est vrai
Oui.
que si toi, tu m'as dit que tu étais coach, donc tu t'adresses à des managers, des dirigeants d'entreprise, comment tu transposes tout ce dont on vient de parler au monde de l'entreprise?
Eh bien, en fait, en écoutant ce que me demande le manager ou le chef d'entreprise, en qualifiant son besoin, en l'accompagnant, de temps en temps, il émerge des choses qui peuvent être utilisées ou qui peuvent nécessiter d'utiliser ActionType ou la neuroharmonisation. Un exemple, quelqu'un qui va avoir du mal à comment prendre une décision. Eh bien, en fait, il va souvent avoir plus de mal à gérer les conséquences de sa décision que la décision elle-même. Souvent, quand en coaching, quelqu'un dit je voudrais t'accompagner dans la prise de décision, souvent la personne a déjà pris la décision, mais a du mal à envisager et à assumer les conséquences de sa décision ou tout simplement l'annonce de sa décision. Et donc, en neuroharmonisation, on peut mettre en évidence le fait que la décision ou ses conséquences vont amener le manager ou le chef d'entreprise en zone de stress. À ce moment-là, on va le mettre en évidence à travers la motricité, comme tout à l'heure, quelqu'un qui est blessé va avoir une inversion de sa motricité, il va passer d'une préférence de marche par le bas comme moi à une marche par le haut comme toi. Et ben en fait, pour une difficulté de prise de décision, on peut tester la même chose. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir travailler avec le déplacement oculaire de la neuroharmonisation ou le tapotement pour réharmoniser la personne ou lui permettre d'utiliser la zone préfrontale qui est sollicitée en fait finalement dans la gestion des tensions et la gestion du stress de telle sorte à ce qu'elle se débarrasse du stress inhérent à la prise de décision ou à la gestion de ses conséquences, lui permettant de vivre mieux la situation et de mieux assumer sa prise de décision ou ses conséquences.
Donc là, tu parles d'un cas où tu es en coaching et c'est quelque chose de très spécifique et tu as identifié que ça pouvait aider. Est-ce qu'on peut faire l'action type en se disant ben, ça me permet de comprendre mes préférences psychologiques, par exemple?
Oui, certainement. Hein, et c'est pas systématiquement parce qu'en fait, comme ActionType est un outil et que mon client est une personne, j'ai pas forcément besoin d'un outil quand on travaille ensemble, puisque le coaching est avant tout quelque chose qui est un accompagnement d'une relation, une discussion qui permet de travailler sur la problématique du client et de la personne que j'accompagne. Mais lorsque elle veut mieux se connaître, lorsqu'elle a besoin d'identifier sur comment son mode de fonctionnement a un pouvoir agir, le cerveau sert à agir beaucoup plus qu'à réfléchir. Et donc, pour pouvoir travailler à la mise en œuvre d'un plan d'action, le corps est bien souvent un média intéressant puisque offre une métaphore qui court-circuite un petit peu les aspects mentaux qui, des fois, tournent un petit peu en rond de façon un peu cyclique et de façon un petit peu sclérosante parfois. Et donc là, le fait de questionner le corps amène une autre lecture, hein, bien souvent beaucoup plus proche des émotions et permet souvent des alternatives et des solutions nettement plus intéressantes.
Tu dis une autre lecture, mais est-ce que ça rejoint justement les tests comme Meyers et quand on le passe par le corps ou quand on passe par l'esprit, est-ce qu'on arrive au même profil psychologique?
Alors, des fois, non. Et des fois, par exemple, j'ai eu un manager, un chef d'entreprise, qui était connu de tout le monde pour être quelqu'un d'extraverti. Et lorsqu'on a fait les tests de motricité, le test de motricité a révélé plutôt une préférence pour une énergie intérieure, plutôt dans une tranquillité et un besoin d'alignement et de repli sur soi. Et cette personne a été bluffée par le fait que le test révélait enfin son mode de fonctionnement préférentiel. Mais parfois, il y a une différence, c'est-à-dire que la personne me dit, comme ça a été le cas d'une autre personne, non, 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 je suis sûr, moi je suis comme ça. Hein, un petit peu comme tout à l'heure, je te disais que peut-être tu es plutôt marchant par le haut du corps et intuitive. Toi, tu pourrais me dire, ah non, non, moi je suis terre à terre. Et donc, du coup, tu pourrais me dire autre chose que ce que ton corps dit. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que généralement, c'est exactement l'endroit où, quand on met un levier, c'est-à-dire quand on travaille cette question de décalage entre le déclaratif, quand on répond aux questions, et le corporel, quand le corps répond, c'est souvent l'endroit idéal sur lequel on va aller travailler, qui nous donne le meilleur levier de changement pour la personne accompagnée.
Écoute, je suis. Je sais pas comment dire. Je trouve ça passionnant. Mais vraiment passionnant. Malheureusement, le temps s'écoule à une vitesse grand V et il faut qu'on passe au questionnaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu penses vraiment important de spécifier?
Non, moi je partage ta passion et peut-être que ça s'entend au ton de ma voix que j'adore ces approches-là qui sont d'un effet de surprise parce qu'il y a vraiment un effet waouh, enfin je comprends comment est-ce que je suis en difficulté avec certaines personnes avec qui j'arrive pas à communiquer ou que j'arrive avec qui je n'arrive pas à fonctionner. Et donc c'est un excellent moyen de mettre en évidence et de positiver les différences. Et donc, je pense que c'est un des éléments qui est intéressant de rajouter. Par exemple, quand je regarde un couple marcher dans la rue, bien souvent, monsieur marche différemment de madame, même s'ils vont dans la même direction et qu'ils sont à peu près synchro dans la façon de poser les pieds. Et donc, en fait, on a souvent tendance à choisir nos compagnons. Au niveau boulot ou au niveau personnel, différents de nous. Et ces différences se complètent, elles s'agencent de façon très harmonieuse, tant qu'on est amoureux, tant qu'on est parent, tant que les choses se passent bien. Et malheureusement, on se rend compte qu'elles provoquent des déchirements et des difficultés très importantes quand le contrat est rompu, quand il y a une difficulté. Et je trouve qu'au niveau vivre ensemble, hein, on parle beaucoup de ces problématiques au niveau sociétal. Le fait de comprendre le bénéfice que l'on a tous à accepter les différences et prendre en compte ces différences, nous fait une ouverture énorme sur le mieux vivre ensemble.
Il y a deux choses qui viennent. Déjà qu'il faudrait ouvrir un cabinet de conseil matrimonial avec de la chaîne type, ce serait pas mal. Et la deuxième, c'est que tu peux repérer sans faire les tests le mode de fonctionnement d'une personne en la regardant marcher notamment.
Oui, tout à fait. C'est un peu tu me parlais de ton patron ou ton chef d'entreprise il y a quelques années qui disait que tu avais une tendance à marcher par le haut. Il faisait de l'action type sans savoir que ça s'appelle action type.
Et ça m'est resté, c'est bizarre, hein. Il m'a dit ça m'est resté, ça donnait rien, ça disait rien de particulier, mais j'avais trouvé ça marrant qu'il me fasse cette remarque. Ok, je te propose de passer au questionnaire
D'accord.
avec la première question qui est, est-ce que tu as eu un échec dans ta vie personnelle ou professionnelle qui t'a particulièrement appris, fait progresser?
Oh oui, quand j'ai fait les tests dans ma session de certification, j'ai raté tous mes tests. D'ailleurs, je ne comprenais plus du tout comment fonctionnait la personne qui était devant moi. Et tout simplement parce que ben on fait partie du test en tant que testeur et en fait on a comme tous, dès qu'on n'est pas bien, dès qu'on n'est pas aligné, une incapacité à accompagner les autres dans leur recherche d'alignement ou leur recherche de solution. Hein, donc c'est quelque chose qui fait partie du jeu. Pour bien accompagner, il faut qu'on soit bien. Et ça suppose de bien se connaître et de faire attention à soi pour pouvoir accueillir le faire attention aux autres.
Wow, ok. On va passer directement à la deuxième question. Y a-t-il une technique ou un outil en dehors de ce dont on a parlé qui t'a particulièrement marqué ou fait avancer?
Alors oui, le silence. Le silence est un outil de coaching et bien souvent, la plupart d'entre nous, on est tellement mal dans le silence qu'au moment où on parle, on étudie un tout petit peu ce qu'on dit et au moment où on entend l'autre parler, on prépare déjà notre argument, notre contre-argument. Et il est assez rare qu'il y ait un espace de silence entre deux personnes qui communiquent. Et je me suis rendu compte de la puissance du silence à travers le coaching, qui est qu'à partir du moment où c'est inconfortable, lorsque je pose une question à mon client, s'il ne sait pas répondre, c'est sans doute que c'est une bonne question, qui l'oblige à aller chercher dans l'ensemble des choses conscientes et non conscientes de nouvelles solutions, hein, alors que lorsque la personne me répond tout de suite, ben, elle me dit des choses qu'elle connaît déjà, qui ont sans doute beaucoup de pertinence, mais qui n'ont pas beaucoup d'utilité pour avancer sur le problème ou sur la difficulté sur laquelle la personne travaille.
Mais d'une certaine manière, ce que tu décris, c'est pas un outil. C'est une constatation que quand le silence est là, c'est que ça va profondément. Comment tu peux l'utiliser, le silence, comme un outil? Toi, tu poses des silences, par exemple?
Qu'est-ce qui pourrait bien se passer si je prolonge un tout petit peu le silence qui vient d'apparaître entre ta question et la mienne? Ben, il serait tout à fait possible que tu reprennes la parole en venant dire, est-ce que Gérard, tu es avec moi? Est-ce que tu m'as bien entendu? Est-ce que tu as entendu ma question? Mais si je n'ai pas d'espace de silence, en fait, je n'ai pas d'espace en fait à pouvoir combler. Et donc, une partie du silence est en fait finalement un creuset, un espace dans lequel le client ou la relation va pouvoir s'étendre et prendre une dimension supplémentaire.
Question suivante, sans silence. Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Eh bien, ça pourrait être ce qu'on vient de dire, le silence. Qui est une condition pour avoir de l'écoute et qui est une condition pour avoir de l'humanité et être en lien, en relation avec ses collaborateurs.
Y a-t-il un livre que tu pourrais nous conseiller à la lecture?
Oh là, il y en a beaucoup. Alors,
Tu lis beaucoup?
Je lis beaucoup, je lis beaucoup. Alors, il y en a un que je pourrais vous conseiller qui est écrit par Frédéric Marquet sur comment les préférences cérébrales, à chacun son cerveau, à chacun sa réussite, hein, qui permet aux personnes qui sont intéressées par ce qu'on vient de se dire d'en savoir un petit peu plus. Hein, je n'ai pas l'éditeur en tête, mais en tapant
Je vais
dans
le trouver, je vais le trouver. Je le
Frédéric.
mettrai en lien dans
Voilà.
l'article et sur
Et
le blog.
Je pourrais proposer un deuxième ouvrage que je viens de lire, qui est le livre de d'Azenbourg sur comment arrêtons d'être gentils, soyons vrais.
Ah, Thomas d'Ansembourg, oui, d'accord. J'adore ce titre.
Voilà. Et qui est une lecture que j'ai eue pendant la période des fêtes, là, hein, que je connaissais déjà la communication non violente. Mais ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin sur, en fait, toutes les choses que l'on intègre à travers notre éducation, avec nos parents, avec les enseignants qu'on croise, avec nos mentors, les entraîneurs ou les managers que l'on peut avoir. Et on se rend compte que la communication est souvent très violente, très directive, très orientée, hein, vers un vouloir pour les autres. Et j'ai aimé lire dans ce livre d'Azenbourg des éléments de tranquillité, de confiance en soi, en les autres, et d'une écoute de soi, d'une attention de soi pour être dans l'observation, dans l'attention à ses sentiments, dans la capacité d'émettre des demandes organisées par rapport à nos besoins. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était très aligné avec ma façon de voir le coaching pour être au service de mes clients, mais en capacité d'écoute, d'empathie et de bienveillance.
Est-ce qu'il y a une citation? Est-ce que tu as un motto?
Ouais, j'aime bien celle de Sénèque qui dit qu'il y a de bon vent que quand on sait où on veut aller. Et derrière, j'aurais une tendance à parler de quelque chose qui rassemble un petit peu les préoccupations de motricité, qui sont de dire votre motricité révèle qui vous êtes et comment vous êtes performant. Et il peut être intéressant, au-delà de cette révélation, d'initier en fait finalement les approches de type qu'on appelle développement personnel à travers le questionner comment est-ce que notre corps agit et réagit, hein, si ça nous permettra d'être présent au monde.
Super, je mettrai tout ça donc sur iTunes, SoundCloud, Moodstep.com.
Ouais.
Quelle est la meilleure façon de te joindre? Tu as un site internet?
Alors, j'ai un site internet qui est blog.adp-vaillant.fr et puis un mail assez classique ggvaillant@orange.fr et puis le téléphone également qui est dans ma poche qui des fois sonne au mauvais moment ou à un moment donné où on est en train de causer ensemble.
Je mettrai aussi ton site et tes coordonnées sur l'article. Ok, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Oh ben, continuer à m'amuser avec ces belles approches et ces belles rencontres, hein, puisqu'en fait, lorsqu'on a la chance de travailler comme moi sur des choses qui nous passionnent comme ça, la vie est vraiment agréable. C'est un plaisir au jour le jour de rencontrer des personnes qui viennent nous voir avec un problème et qui repartent avec des solutions, alors qu'on a vraiment le sentiment de ne quasiment rien avoir fait, simplement avoir été un espace de développement ou un temps de développement pour ces personnes.
En tout cas, moi, ça a été un temps de développement là, fabuleux. Je
Excellent.
suis surexcitée. Enfin, j'étais comme quoi, j'avais l'intuition que ça allait être très riche, en tout cas pour moi. Je ne sais pas pour les gens qui écoutent, je l'espère aussi. Mais merci énormément de m'avoir et de nous avoir consacré du temps. Pour moi, c'est très riche. En plus, j'ai vraiment envie de creuser. Et ça, c'est toujours la marque que. Ça touche quelque chose qui
C'est
est
quelque chose,
excitant, quoi.
c'est bien. Ben merci de cette occasion de parler de ce que j'adore d'Action Type. Et puis, si les auditeurs ont des questions, comme il y a un petit espace pour interagir et réagir, hein, je me ferai un plaisir de répondre à leurs questions si il y a des choses qui ont besoin d'un éclairage complémentaire.
Ok. Merci beaucoup, Gérard.
Merci à toi. Bonne journée. À
Au
bientôt.
revoir. Je voudrais dire un grand merci à Frédéric Dufaux-Jouël, président du réseau Germe. Nous avons fait un podcast ensemble il y a quelques semaines et c'est lui qui m'a parlé de l'Action Type puisqu'il s'y est formé. Silence. Silence de gratitude parce que c'est tout ce que j'aime dans ce podcast, c'est pouvoir découvrir des choses nouvelles, que ma curiosité soit excitée. Et là, bah, j'ai envie de creuser et j'espère que vous aussi, ça vous donne envie de lire, de faire des recherches et de continuer à apprendre. Il se trouve que ces quelques semaines, et je dirais même ces 2 dernières semaines, j'ai rencontré plusieurs d'entre vous qui écoutaient ce podcast ou même les vidéos sur YouTube de Moodstep. Et donc, je fais un coucou par la même occasion à Céline qui écoute peut-être cette interview en se brossant les dents, puisqu'elle écoute les interviews Moodstep en se brossant les dents. Et un coucou à Anne que j'ai rencontrée à Paris lors de ma dernière intervention et qui, elle, a écouté toutes les interviews depuis 2013, et j'ai commencé en 2009, donc ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interviews depuis 2013. Voilà, et je fais donc un coucou à vous tous qui écoutez ce podcast parfois assidûment, et qui, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires et tout ça, mais que vous êtes présents à un moment ou à un autre, on se rend compte, il y a des échanges, et quand vous me dites à quel point eh ben, ça a pu vous ouvrir l'esprit, vous faire découvrir des choses nouvelles sur vous, sur les autres, eh bien, ça me réjouit. Je fais avant tout ces interviews pour apprendre, et donc si on peut partager ensemble et apprendre ensemble, bah, c'est merveilleux. Alors bah, je vous souhaite une bonne semaine, j'avais dit que je ferais des interviews toutes les deux semaines, mais ça se rebouscule au portillon, donc je pense qu'on se retrouve dès mercredi prochain. En attendant, merveilleuse semaine à vous, au revoir.